L'encyclopédie, article, athéisme. L'athéisme, c'est l'opinion de ceux qui nient l'existence d'un Dieu autour du monde. Ainsi, la simple ignorance de Dieu ne ferait pas l'athéisme. Pour être chargé du titre Dieu d'athéisme, il faut avoir la notion de Dieu et la rejeter. L'état de doute n'est pas non plus l'athéisme formel, mais il s'en approche ou s'en éloigne à proportion du nombre des doutes ou de la manière de les envisager. On est donc fondé à traiter d'athées que ceux qui déclarent ouvertement qu'ils ont pris parti sur le dogme de l'existence de Dieu et qu'ils soutiennent la négative. Cette remarque est très importante parce que quantité de grands hommes, tant anciens que modernes, ont fort légèrement été taxés d'athéisme, soit pour avoir attaqué les faux dieux, soit pour avoir rejeté certains arguments faibles, qui ne concluent point pour l'existence du vrai Dieu. D'ailleurs, il y a peu de gens qui pensent toujours conséquemment, surtout quand il s'agit d'un sujet aussi abstrait et aussi composé que l'idée de la cause de toute chose ou le gouvernement du monde. On ne peut regarder comme véritable athée que celui qui rejette l'idée d'une intelligence qui gouverne avec un certain dessein. Quelle idée qu'il se fasse de cette intelligence, la supposa-t-il matérielle, limitée à certains égards, etc., tout cela n'est point encore l'athéisme. L'athéisme ne se borne pas à défigurer l'idée de Dieu, mais il la détruit entièrement. J'ai ajouté ces mots « auteur du monde » parce qu'il ne suffit pas d'adopter dans son système le mot de Dieu pour n'être pas athée. Les épicuriens parlaient des dieux. Ils en reconnaissaient un grand nombre. Et cependant, ils étaient vraiment athées, parce qu'ils se donnaient à ces dieux aucune part à l'origine et à la conservation du monde, et qu'ils les reléguaient dans une mollesse de vie oisive et indolente. Il en est de même du spinozisme, sans lequel l'usage du mot de Dieu n'empêche point que ce système en exclue la notion. L'athéisme est fort ancien. Selon les apparences, il y a eu des athées avant Démocrite et Leucippe, puisque Platon, dans les lois, dit parlant aux athées de son temps « Tenez-vous à vous seul, mon fils, ni vos amis, Démocrite, Leucippe et Protagore, qui avaient eu les premiers ce sentiment touchant les dieux, mais il y a toujours eu plus ou moins de gens attaqués de cette maladie. » Aristote, dans sa métaphysique, assure que plusieurs de ceux qui ont les premiers philosophes on a reconnu que la matière pour première cause de l'univers, sans aucune cause efficiente et intelligente. La raison qu'ils en avaient, comme ce philosophe le remarque, c'est qu'ils s'assuraient qu'il n'y a aucune substance que la matière, et que tout le reste n'en est que des accidents qui sont engendrés et corruptibles, au lieu que la matière, qui est toujours la même, n'est ni engendrée, ni sujette à être détruite, mais éternelle. Les matérialistes et de véritables athées, non pas tant parce qu'ils n'établissaient que des corps, que parce qu'ils ne reconnaissaient aucune intelligence qui les mue et les gouvernât. Car d'autres philosophes, comme Héraclite, Zénon, etc., en croyant que tout est matériel, n'ont pas laissé d'admettre une intelligence naturellement attachée à la matière et qui animait tout l'univers, ce qui leur faisait dire que c'est un animal. Ceux-ci ne peuvent être regardés comme athées. L'on trouve diverses espèces d'athéisme chez les anciens. Les principales sont l'éternité du monde, l'atomisme ou le concours fortuit, l'hylopatianisme et l'hylozoïsme, qu'il faut chercher sous leur titre particulier dans ce dictionnaire. Il faut remarquer que l'éternité du monde n'est une espèce d'athéisme que dans le sens auquel Aristote et ses sectateurs l'établissaient, car ce n'est pas être athée que de croire le monde co-éternel à Dieu, de le regarder comme un effet inséparable de sa cause. Pour l'éternité de la matière, je les garde de la ranger parmi les systèmes des athées. Ils l'ont tous soutenu à la vérité, mais des philosophes théistes l'ont pareillement admise, et l'époque du dogme de la création n'est pas bien assurée. Et parmi les modernes, il y a d'athéisme systématique que celui de Spinoza, dont nous faisons aussi un article séparé. Nous nous bordons ici aux remarques générales suivantes. Premièrement, c'est à l'athée à prouver que la notion de Dieu est contradictoire et qu'il est impossible qu'un tel être existe. Quand même nous ne pourrions pas démontrer la possibilité de l'être souverainement parfait, nous serions en droit de demander à l'athée les preuves du contraire. Car étant persuadé avec raison que cette idée ne renferme point de contradiction, c'est à lui à nous montrer le contraire. C'est le devoir de celui qui nie d'alléguer ses raisons. Ainsi, tout le poids du travail retombe sur l'athée, et celui qui admet un dieu peut tranquillement y acquiescer, laissant à son antagoniste le soin d'en démontrer la contradiction. Or, ajoutons-nous, c'est ce dont il ne viendra jamais à bout. En effet, l'assemblage de toutes les réalités, de toutes les perfections dans un seul être, ne renferme point de contradiction. Il est donc possible. Et dès là qu'il est possible, cet être doit nécessairement exister, l'existence étant comprise parmi ses réalités. Mais il faut renvoyer à l'article Dieu le détail des preuves de son existence. Deuxièmement, bien loin d'éviter les difficultés en rejetant la notion d'un Dieu, l'athée s'engage dans des hypothèses mille fois plus difficiles à recevoir. Voici en peu de mots ce que l'athée est obligé d'admettre. Suivant son hypothèse, le monde existe par lui-même, est indépendant de tout autre être. Il n'y a rien dans ce monde visible qui ait sa raison hors du monde. Les parties de ce tout et le tout lui-même renferment la raison de leur existence dans leur essence. Ce sont des êtres absolument nécessaires. Et il appliquerait contradiction qu'ils n'existassent pas. Le monde n'a point eu de commencement, il n'aura point de fin. Il est éternel et suffisant à lui-même pour sa conservation. Les miracles sont impossibles et l'ordre de la nature est inaltérable. Les lois du mouvement, les événements naturels, l'enchaînement des choses sont autant des faits d'une nécessité absolue. L'âme n'a point de liberté. L'univers est sans bornes. Une fatalité absolue tient lieu de providence. C'est là, et non dans le système des théistes, qu'il faut chercher les contradictions. Tout en fourmille. Peut-on dire que le monde, considérant lui-même, ait des caractères d'éternité qui ne se puissent pas trouver dans un être intelligent? Peut-on soutenir qu'il est plus facile de comprendre que la matière se meut d'elle-même et qu'elle a formé par hasard et sans dessein le monde tel qu'il est, que de concevoir qu'une intelligence a imprimé le mouvement à la matière et en a tout fait dans certaines vues? Pourrait-on dire que l'on comprend comment tout ce qui existe a été formé par un mouvement purement mécanique et nécessaire de la matière, sans projet et sans dessein d'aucune intelligence qui l'ait conduite, et qu'on ne comprend pas comment une intelligence l'aurait pu faire? Il n'y a assurément personne qui, s'il veut au moins parler avec sincérité, n'avoue que le second est infiniment plus facile à comprendre que le premier. Il s'ensuit de là que les athées ont des hypothèses beaucoup plus difficiles à concevoir que celles qu'ils rejettent, et qu'ils s'éloignent des sentiments communs plutôt pour se distinguer que parce que les difficultés leur font de la peine. Autrement, ils n'embrasseraient pas des systèmes tout à fait incompréhensibles, sous prétexte qu'ils n'entendent pas les opinions généralement reçues.
Troisièmement, l'athée ne saurait éviter les absurdités du progrès à l'infini. Il y a un progrès qu'on appelle rectiligne et un progrès qu'on appelle circulaire. Suivant le premier, en remontant de l'effet à la cause et de cette cause à une autre, comme de l'œuf à la poule et de la poule à l'œuf, on ne trouve jamais le bout. Et cette chaîne d'être visiblement contingent forme un tout nécessaire, éternel, infini. L'impossibilité d'une telle supposition est si manifeste que les philosophes païens l'avaient abandonné pour se retrancher dans le progrès circulaire. Celui-ci consiste dans certaines révolutions périodiques extrêmement longues, au bout desquels les mêmes choses se retrouvent à la même place. Et l'état de l'univers est précisément tel qu'il était au même moment de la période précédente. Oh, j'ai déjà écrit une infinité de lois à fois ce que j'écris à présent, et je l'écrirai encore une infinité de fois dans la suite des révolutions éternelles de l'univers. Mais la même absurdité qui détruit le progrès rectiligne revient ici contre le progrès circulaire. Comme dans le premier cas, on cherche inutilement, tantôt dans l'œuf, tantôt dans la poule, sans jamais arrêter, la raison suffisante de cette chaîne d'être. De même, dans celui-ci, une révolution est liée à l'autre. Mais on ne voit point comment une révolution produit l'autre et quel est le principe de cette succession infinie. Que l'on mette des millions d'années pour les révolutions universelles ou des jours, des heures, des minutes pour l'existence de petits insectes éphémères dont l'un produit l'autre sans fin, c'est la même chose. Ce sont toujours des effets enchaînés les uns aux autres, sans qu'on puisse assigner une cause, un principe, une raison suffisante qui les explique. On peut aussi attaquer l'athéisme par ses conséquences, qui, en sapant la religion, renverse du même coup les fondements de la morale et de la politique. En effet, l'athéisme avilit et dégrade la nature humaine en niant qu'il y ait en elle les moindres principes de morale, de politique, d'égalité, d'équité et d'humanité, toute la chaîne des charités des hommes. Suivant cet absurde système, toute leur bienveillance ne vient que de leur crainte, de leur faiblesse et du besoin qu'ils ont les uns des autres. L'utilité et le désir de parvenir, l'envie des plaisirs, des honneurs, des richesses, sont les uniques règles de ce qui est bon. La justice et le gouvernement civil ne sont des choses si bonnes ni désirables par elles-mêmes, car elles ne servent qu'à tenir dans les fers la liberté de l'homme. Mais on les a établis comme un moindre mal et pour obvier à l'état de guerre dans lequel nous naissons. Ainsi les hommes ne sont justes que malgré eux, car ils voudraient bien qu'il fût possible de n'obéir à aucune foi. Enfin, car ce n'est ici qu'un échantillon des principes moraux et politiques de l'athéisme, enfin les souverains ont une autorité proportionnée à leur force. Et si elles sont illimitées, ils ont un droit illimité de commander, en sorte que la volonté de celui qui commande tienne lieu de justice au sujet et les oblige d'obéir, de quelque nature que soient les ordres. Je conviens que les idées d'honnête et de déshonnête subsistent avec l'athéisme. Ces idées étant dans le fond et dans l'essence de la nature humaine, l'athée ne saurait les rejeter. Il ne peut méconnaître la différence morale des actions, parce que quand même il n'y aurait point de divinité, les actions qui tendent à détériorer notre corps et notre âme seraient toujours également contraires aux obligations naturelles. La vertu purement philosophique, qu'on ne saurait lui refuser en tant qu'il peut se conformer aux obligations naturelles, dont il trouve l'empreinte dans sa nature, cette vertu, dis-je, a très peu de force et ne saurait guère tenir compte entre les motifs de la crainte, de l'intérêt et des passions. Pour résister, surtout lorsqu'il en coûte d'être vertueux, il faut être rempli de l'idée d'un Dieu qui voit tout et qui conduit tout. L'athéisme ne fournit rien et se trouve sans ressources. Dès que la vertu est malheureuse, il est réduit à l'exclamation de Brutus. « Vertu, stérile vertu, de quoi m'as-tu servi ?» Au contraire, celui qui croit fortement qu'il y a un Dieu, que ce Dieu est bon et que tout ce qu'il a fait et qu'il permet aboutira enfin au bien de ses créatures, un tel homme peut conserver sa vertu et son intégrité, même dans la condition la plus dure. Il est vrai qu'il faut pour cet effet admettre l'idée des récompenses et des peines à venir. Il résulte de là que l'athéisme publiquement professé est punissable suivant le droit naturel. On ne peut que désapprouver hautement quantité de procédures barbares et d'exécutions inhumaines que le simple soupçon ou le prétexte d'athéisme ont occasionné. Mais d'un autre côté, l'homme le plus tolérant ne disconviendra pas que le magistrat n'ait droit de réprimer ceux qui osent professer l'athéisme et de les faire périr même, s'il ne peut autrement en délivrer la société. Personne ne révoque en doute que le magistrat ne soit pleinement autorisé à punir ce qui est mauvais et vicieux et à récompenser ce qui est bon et vertueux. S'il peut punir ceux qui font du tort à une seule personne, il a sans doute autant droit de punir ceux qui en font à toute une société, en niant qu'il y ait un Dieu, ou qu'il se mêle de la conduite du genre humain pour récompenser ceux qui travaillent au bien commun et pour châtier ceux qui l'attaquent. On peut regarder un homme de cette sorte comme l'ennemi de tous les autres, puisqu'il renverse tous les fondements sur lesquels leur conservation et leur félicité sont principalement établies. Un tel homme pourrait être puni par chacun dans le droit de nature. Par conséquent, le magistrat doit avoir droit de punir non seulement ceux qui nient l'existence d'une divinité, mais encore ceux qui rendent cette existence inutile en niant sa providence ou en prêchant contre son culte, ou qui sont coupables de blasphèmes formels, de profanations, de parjures ou de jurements prononcés légèrement. La religion est si nécessaire pour le soutien de la société humaine qu'il est impossible, comme les païens l'ont reconnu aussi bien que les chrétiens, que la société subsiste si l'on admet une puissance invisible qui souverne les affaires du genre humain. Voyez-en la preuve à l'article des athées. La crainte et le respect que l'on a pour cet être produisent plus d'effet dans les hommes pour leur faire observer les devoirs dans lesquels leur félicité consiste sur la terre que tous les supplices dont les magistrats les puissent menacer. Les athées mêmes n'osent le nier, et c'est pourquoi ils supposent que la religion est une invention des politiques pour tenir plus facilement la société en règle. Mais quand cela serait, les politiques ont le droit de maintenir leur établissement et de traiter en ennemis ceux qui voudraient les détruire. Il n'y a point de politique moins sensée que ceux qui prêtent l'oreille aux insinuations de l'athéisme et qui ont l'imprudence de faire profession ouverte d'irreligion. Les athées, en flattant les souverains et en les prévenant contre toute religion, leur font autant de tort qu'à la religion même, puisqu'ils leur ôtent tout droit, excepté la force, et qu'ils dégagent leurs sujets de toute obligation et du serment de fidélité qu'ils leur ont fait. Un droit qui n'est établi d'une part que sur la force et de l'autre que sur la crainte, tôt ou tard se détruit et se renverse. Si les souverains pouvaient détruire toute conscience à toute religion dans les esprits de tous les hommes, dans la pensée d'agir ensuite avec une entière liberté, ils se verraient bientôt ensevelis eux-mêmes sous les ruines de la religion. La conscience et la religion engagent tous les sujets. Premièrement, à exécuter les ordres légitimes de leur souverain ou de la puissance législative à laquelle ils sont soumis, lors même qu'ils sont opposés à leurs intérêts particuliers, et deuxièmement, ne pas résister à cette même puissance par la force, comme saint Paul l'ordonne. La religion est plus encore le soutien des rois que le glaive qui leur a été remis.